Nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir Jean Nouvel, qui vient directement de Abu Dhabi, où il réalise donc le musée du Louvre. C'est un architecte qu'on ne présente plus, et il est emblématique de la scène française et internationale. Il débute sa carrière en 1970, date à laquelle il fonde sa première agence avec François Seigneur. Militant pour un renouveau de l'architecture en France, il cofonde le mouvement Mars 1976, en opposition à l'héritage de la Charte d'Athènes, et participe à la création du syndicat de l'architecture, en rupture avec l'ordre des architectes. Auteur d'une œuvre prolifique, qui va de l'Institut du monde arabe à Paris en 1987, de Nemojus à Nîmes, de la restructuration de l'Opéra de Lyon et de la Fondation Cartier, du musée du Quai Branly en 2006, en passant à l'étranger, par le Palais de la Culture et des Congrès de Lucerne, inauguré en 1999, l'extension du musée Reina Sofia de Madrid, la tour Aguibar de Barcelone et le théâtre Guthrie de Minneapolis. Il a été récompensé par le prix Pritzker en 2008. Ses projets les plus récents concernent le Louvre d'Abu Dhabi, la tour 53 W53 à Manhattan et le musée national du Qatar. Et enfin, il a réalisé à Paris la Philharmonie à la Villette. Donc, et le titre de son intervention est « Sans titre ». Voilà.
Ça, c'est pour avancer. D'accord. C'est pour reculer. C'est ça. Bon. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir et un honneur d'être là, évidemment. J'ai répondu à la sollicitation de mon ami Alain Fleischer. Mais je vais vous faire une présentation qui est de l'ordre de la spontanéité. Je dois le dire, je n'ai pas travaillé spécialement pour cette présentation. Maintenant, je suis quelqu'un qui travaille sur la forme en permanence et je me suis dit que je pouvais vous dire quelque chose à ce sujet. C'est vraiment, je dirais, un compte-rendu de la façon dont je peux travailler sur un exemple donné. Comme nous sommes à un moment où on présente le Louvre Abu Dhabi, on a annoncé hier qu'il allait ouvrir pour le 11 novembre, j'ai pris le sujet d'actualité. Voilà. Comment est arrivé ce projet ? Les Émiratis ont décidé de créer un quartier culturel, ce qu'on appelle en anglais un cultural district. Ils sont allés chercher Tom Krenz, qui était le patron du Guggenheim à l'époque, pour créer ou proposer une stratégie urbaine et créer aussi et proposer un casting aussi. Abu Dhabi était en pleine mutation, il l'a prouvé depuis, et face à la vieille ville, il y avait une grande île qui s'appelle Sadiyat, qui est un fragment de désert, sur lequel Tom Krenz a proposé un plan général avec quatre fortes institutions culturelles d'attractivité mondiale. Un Guggenheim, comme par hasard, un musée de civilisation, dont j'ai hérité, un Performing Arts Center avec Zaha Hadid, et un Maritime Museum avec Tadao Ando, et un musée national Sheikh Zayed avec Herzog de Morons. Il y en a cinq, en fait. Il m'annonce ça au téléphone, en s'expliquant un tout petit peu, et il me dit « je viens te voir après ». Quand il arrive, il me dit « alors, tu en es où ?» Je lui dis « est-ce que tu commences à avoir une idée ?» À partir du moment où on me demande quelque chose, le ver est dans le fruit, le virus est là, et on ne peut pas s'en débarrasser. Donc, il y a le cerveau qui travaille tout seul, et je lui dis « effectivement, je commence à avoir l'embryon d'une idée. Peux-tu me l'expliquer ? Alors, ça, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, je commence mal. Je lui explique ça, donc, en août 2006. Le long de l'eau, le long de cette île, j'ai voulu faire quelque chose qui pouvait être, pour moi, un musée, c'est avant tout un quartier beaucoup plus qu'un bâtiment. C'est un lieu où on vient, où on revient, c'est un lieu de pensée, c'est un lieu de rencontre. J'ai horreur des musées qui sont des coffres-forts, quoi, qui sont des boîtes avec une grosse porte, et puis qui protègent uniquement ce qu'il y a là, avec seule, comme seule fonction pratiquement, ou comme fonction affichée du moins. Je lui ai dit, c'est une île, ou c'est une presqu'île en fait, que je propose contre l'île, parce que, en bon architecte contextualiste, ce que j'essaye d'être, je voulais que ce musée appartienne à ce territoire, appartienne à leur culture, soit un musée donc marqué par les symboles arabes et par le mode de vie. Et un musée aussi qui apporte quelque chose dans ce climat, qui est le climat au sens tout à fait direct déjà, c'est-à-dire il fait très très chaud, ça vient de le dire. Et je voulais qu'on puisse vraiment avoir plaisir à venir et à revenir là. Et donc ce microclimat, je voulais l'appuyer, je l'ai appuyé en fait sur l'utilisation de l'eau pour rafraîchir évidemment les personnes qui viennent dans le musée et qui se promènent. J'ai voulu à ce moment-là que l'eau pénètre la ville. C'est l'histoire de la forme, non pas d'une ville comme Grac, mais la forme d'une presqu'île. Le premier schéma que je lui ai expliqué, c'est cela, c'est que il y aurait donc une ville protégée par une ombrelle en fait, ou par un parapluie, cette ville serait sur l'eau, donc on se détacherait du territoire. Du territoire de l'île de Saadiyat, la ville étant là, pour créer, puisqu'il fallait rester sur un site quand même, donc on creuse pour créer une presqu'île qui est connectée à l'île. Et sous cette ombrelle, donc, il y a une ville dont on va parler, une ville qui, pour moi, est une ville héritée de la ville arabe. Donc c'est en fait, est-ce qu'on la voit un peu mieux là? Oui, là c'est le schéma, vous voyez, avec toutes les institutions culturelles qui se développent le long de l'île de Saadiyat. Et une grande urbanisation derrière, ça c'est autre chose. Et voilà, la presqu'île et la ville au milieu. Donc, voilà les schémas généraux de départ. Le site est celui-là. Alors, l'idée de... relativement simple, je l'explique à ce moment-là, c'est de dire, bon, il y a une sorte de ville arabe et il y a une protection. Et pour moi, la grande architecture arabe, ça a toujours été géométrie et lumière. Donc, ce parapluie, cette ombrelle, va jouer avec la lumière. Tout le travail... En fait, on peut parler aussi de la façon dont les idées arrivent. Bon, pour moi, c'est toujours la même chose. Ce virus est là, il est dans ma tête. Je mets en place tous les paramètres que j'ai. Là, c'était très en amont, donc je n'avais pas tous les paramètres de détail de l'évolution de la forme parce que je n'avais pas de programme au sens strict du terme. Mais je laisse flotter les idées au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et avec ces paramètres-là que j'avais déjà mis en ordre ou mis dans ma tête en tous les cas. à un moment, les choses, j'attrape ce qui se passe, en fait. J'attends. J'ai l'impression que mon cerveau travaille sans moi, à certains moments. Je suis là uniquement pour attraper ce qui passe. Et quand ça passe, j'y reviens. Tout ça, ça se passe dans le silence le plus absolu. Ça se passe dans le noir, j'ai un masque, j'ai des petites oreilles bouchées par les boules-quies. Et de temps en temps, quelque chose arrive. C'est comme aller à la pêche, en fait. Bon, il faut simplement appâter un peu. Il faut avoir quelque chose, il faut mettre quelque chose pour que ça arrive. Donc, c'est toujours ce processus-là. Donc, j'ai commencé à rechercher ce que pouvait être cette ombrelle, parce que pour moi, c'était la clé de l'esprit de cette presqu'île. Et j'ai pensé que cette ombrelle devait laisser passer un peu de soleil, et d'une façon peut-être géométrique. Et je me suis très vite retrouvé face à une passoire, en fait, quoi. Quelques trous dans quelque chose. Et c'est pas très sexy, la passoire, finalement. C'est pas, il valait mieux essayer de pousser cela un peu plus loin. Et merci. Et finalement, les choses arrivent aussi comme ça. Les architectes sont des kleptomanes, en fait. Hein. Ils se promènent, ils voient quelque chose, et ça déclenche autre chose. Et il suffit d'une persienne, d'une fenêtre qui est derrière, et de la superposition des parties opaques de la persienne et des parties opaques de la fenêtre pour se rendre compte que, quand le soleil tourne, il y a des parties éclairées qui deviennent dans l'ombre, et bon. Et je me suis dit, finalement, si je faisais une coupole à plusieurs couches, une succession de coupoles, finalement, et toutes percées géométriquement d'une façon différenciée, à partir d'une géométrie qui est une géométrie de construction, je dirais. À ce moment-là, je vais avoir, pour que mon ray de soleil arrive en bas, sur ma petite ville, il faut qu'il passe à travers toutes les couches. Mais comme le soleil tourne, à un moment, je vais avoir un trou qui va s'arrêter, et qui va devenir une ombre, une tache de lumière qui va disparaître. Puis en même temps, peut-être il y en a une autre qui va apparaître. Si je complexifie ça, je peux arriver à une chose assez étrange. Et j'ai commencé à regarder le temps que le soleil pouvait prendre pour faire varier la tache de soleil sur le mur. Et en fait, ces taches de soleil, si on reste quelques minutes, 2 ou 3 minutes, on voit la tache se réduire, la tache de lumière grandir, et on voit des éléments qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Alors ça, c'est la complexité des géométries qui sont travaillées à partir de motifs arabes, mais tout à fait réinterprétés. Maintenant, avec les ordinateurs, on peut aller beaucoup plus loin. Et l'idée a été de créer une rotation, en fait, de ces motifs différentiels avec chaque couche. Et on a besoin d'une structure. Après, au fur et à mesure que les contraintes arrivent, on est obligé d'intégrer d'autres paramètres. Et je voulais d'une structure qui appartienne à ce système géométrique, qui ne le troublait pas, mais qui soit comme une couche de plus, en fait. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais faire, comme dans la grande tradition, une coupole, comme Brunelleschi, hein, une coupole, un vide et un dôme, tout simplement. On arrive donc à ce schéma-là, et à cette superposition des différentes couches. Ça, ce n'est pas des documents définitifs du tout, c'est des documents d'étude, parce que à partir du moment où l'idée est là, la forme s'affine, la forme se manipule, la forme là, déjà, on peut dire que l'idée d'avoir une ville avec une ombrelle sur le dessus et l'eau qui rentre, bon, c'est une forme de ville, bon, une forme de presqu'île. L'idée, après, de travailler la lumière, c'est l'idée de la forme de la lumière. C'est l'idée, on va voir après, qu'on va travailler sur la forme des taches de lumière, sur la dimension des ombres qui vont se projeter comme en géométrie descriptive pour intercepter les volumes qui sont en dessous, pour s'appuyer sur les volumes et qui se déforment avec les volumes. Donc voilà ce que ça donne en coupe, si vous voulez, en dessous. Il y a une sorte de grande... De double peau comme ça, et il y a sur l'extérieur la géométrie, le motif qui est affirmé, sur l'intérieur aussi, mais dans les variations après, il va y avoir une énorme complexité. Là, on voit déjà apparaître l'idée d'une structure au milieu, et vous voyez, donc on s'amuse bien quand même. Hein. Il faut dire que je suis petit-fils de brodeuse, hein, donc j'ai toujours été intéressé par ce genre de choses. Alors après, évidemment, on a travaillé avec des scientifiques, évidemment, pour savoir exactement ce que tout ça allait pouvoir dire et comment on allait pouvoir évaluer et tester les impacts de lumière, la forme de la lumière, comment on pourrait simuler tout cela. Faut dire que pour donner une échelle à tout ça, vous demandez quelle est la taille de ça, le dôme il fait 180 mètres de diamètre quand même, hein, donc c'est déjà une certaine échelle. Donc on a travaillé avec des partenaires, en particulier aussi sur la lumière et sur la chaleur. Là, donc, on voit la décomposition. Hein, dans un premier temps, donc, on travaille sur une peau uniquement. Ensuite, avec des ordinateurs, on travaille après avec une maquette. On travaille avec un prototype et échelle grandeur. Et puis ensuite, on fait un mock-up beaucoup plus grand dans les conditions techniques qui sont proches des nôtres. Donc, voilà, ça, c'est pour vous dire comment on approche de façon progressive, comme ça, l'élaboration d'une forme, parce que une coupole en soi, on peut dire que c'est une forme, mais la forme de la coupole, si la coupole est un projecteur de lumière, en fait, bon, et finalement, c'est un objet, dans ce cas-là, qui est fixe, et qui joue sur sa fixité par rapport au soleil qui tourne, c'est comme un cadran solaire, sauf que c'est en négatif. C'est-à-dire que la géométrie de l'intérieur change. La fabrication de la maquette d'étude, 5 mètres de diamètre, et la ville en dessous, vous voyez, des petites taches qui commencent à apparaître, les plus grandes sur le côté, parce qu'après on va aller jusqu'à un vrai mock-up. On va construire un vrai bâtiment. Là, vous voyez, sous la maquette de 5 mètres, on peut rentrer. Et on a une simulation de la structure qui n'est pas encore très élaborée. Mais... Et là, on commence à voir la complexité de toutes ces couches qui se croisent. Avec un ordre caché. Là, c'est la projection de la structure à un moment où il ne devait pas y avoir... quand on est dessous, il y a quelques événements. Alors ça, c'est avec mon client, le Cheikh Sultan, qui voulait voir tout ça. Et donc, il est rentré dans la maquette. Et la réflexion, c'est un miroir, mais c'est de l'eau, en fait. Et donc, c'est simplement les têtes qui sont un peu hors d'échelle, quoi. Ça, c'est le site. Et voilà donc ce bâtiment qui a été créé pour vérifier la forme et l'impact de tous les points de lumière. Donc, en haut, c'est un carré de 15 mètres par 15. Et dedans, donc, Alors, c'est une architecture temporaire, évidemment, qui a été démolie. Dedans, on peut monter à la hauteur qu'on veut un plancher, on peut orienter le fragment de coupole pour qu'il corresponde soit aux différentes orientations. Et là, donc, on commence à voir un peu quelle est la taille qui est correcte pour évaluer l'impact et le mouvement de ces sortes de paramécies comme ça qui arrivent. Parce que même si vous avez une forme qui est géométrique, avec la distance, elle devient arrondie. Elle devient, c'est des formes dont on ne maîtrise pas exactement l'impact et surtout avec le mouvement du soleil. Donc c'est à partir de là qu'on a modifié les paramètres et qu'on a refermé beaucoup, d'ailleurs, la coupole. Il y a à peu près 1% de lumière qui passe, en fait. Et on y voit très bien. Vous voyez, c'est déjà une sorte de cathédrale d'échafaudage. Il y a superposition de tous les systèmes quand ils sont colorés. Alors après, la forme, c'est la forme dans la forme. C'est chaque élément qu'il faut définir de façon à ce qu'il précise le caractère de la forme générale, de façon à ce qu'il précise le caractère de ce dôme qui, par nature, est un symbole spirituel, qui est aussi une référence à ces dômes de céramique blanche ou blanche et bleue, souvent, et verte, bon, que l'on connaît. Donc il fallait qu'il y ait cette précision et cette préciosité. Alors évidemment, tous les assemblages de la structure qu'on voit à travers quand on est en dessous appartiennent à ce vocabulaire, appartiennent à cette complexité d'une forme aussi construite, mais aussi structurée par couches et où toutes les jonctions deviennent une question. Souvent, quand les choses sont empâtées par les soudures avec des gros tubes ronds, etc., ce qu'on fait pour les installations sportives, c'est assez inélégant, il faut le dire, quand même, quand on regarde ça de près. Là, on était quand même dans une symbolique tout à fait précise pour créer un lieu qui va accueillir et qui accueille actuellement toute une série d'œuvres et d'objets d'art sur l'histoire de l'humanité qui sont confrontés. C'est un musée de civilisation, donc l'architecture essaye d'être symboliquement une glorification de ce dialogue civilisationnel. Vous voyez les petits assemblages qui se préparent. La limite de la coupole, où on peut se promener d'ailleurs. Toujours, alors, le prototype avec lequel on a travaillé pendant 2 ans. Alors il y a une chose intéressante, liée au hasard, celle-là, c'est aussi la forme d'une ville, c'est une archéologie du futur, puisqu'il y a eu le printemps arabe, et tout d'un coup ils se sont arrêtés pendant 2 ans. Et les poteaux étaient là, et la trame de la ville apparaît, exactement comme une ruine antique dans le désert. Ça restera comme ça pendant 2 ans, et cette image est restée dans nos mémoires. Alors évidemment, après, qu'est-ce que c'est que cette ville qui est en dessous? Là aussi, il y a différentes typologies, il y a différentes formes. Pour moi, c'est une ville arabe, c'est une ville de la Méditerranée, c'est une ville sud, c'est une ville de soleil, c'est une ville. Donc on a recherché dans différentes typologies, évidemment, et on a commencé à composer notre petite structures et architectures intérieures, quoi. C'est-à-dire que pour moi, la ville, en fait, a une dimension palatiale, là. C'est-à-dire que tous les bâtiments que vous voyez sont des salles de musée, en fait. Et tout ce qui est gris, ce sont des places couvertes. Et ce qui est noir sur la gauche, c'est l'eau. Et la limite de l'eau, c'est ce grand serpent, là, où d'un côté, c'est la terre et de l'autre, c'est l'eau. Donc, en fait, on se retrouve dans une dimension quasi archéologique, mais en créant à chaque fois, parce que pour moi, le premier des critères de la contextualité, c'est l'époque, quand même. Donc, les bâtiments qui sont créés sont des bâtiments sans concession vis-à-vis de ce qui a existé au sens constructif ou pittoresque. C'est une autre écriture, celle d'aujourd'hui. Voilà les principaux volumes du musée. Voilà ce qui est protégé. C'est intéressant d'avoir une zone qui est protégée et l'autre qui ne l'est pas, d'ailleurs, vis-à-vis de l'eau qui rentre. Et alors, ironie de l'histoire, a priori, c'est le Guggenheim qui aurait dû se faire d'abord, qui est en haut, qui initialement était d'ailleurs sur une île plutôt rectangulaire, ce qu'on voyait en dessous, et qui était devenu un peu comme nous, une presqu'île avec l'eau qui rentrait d'une autre façon. Ce Guggenheim était trop grand, a été stoppé, et actuellement, de tous les projets, il n'y en a qu'un qui est réalisé, c'est le musée de civilisation. En bas, c'est le... Pardon ? On ne m'entend pas, oui. J'oublie quelquefois que j'ai un micro. Et en bas, c'était le Performing Arts Center de Zaha Hadid, qui malheureusement ne le fera jamais. Donc, vous voyez la superposition des choses, vous voyez les je ne vais pas entrer dans les programmes du musée, et les premières simulations par le dessin de cet impact, ça c'est des dessins initiaux, c'est beaucoup trop ouvert là-haut, mais il y a trop d'impact, mais cette idée de la lumière qui va venir sur les zones qui sont touchées par le soleil, créer cette pluie de lumière en dessous. Donc c'est ça qui est réalisé aujourd'hui, vous le verrez un peu à la fin. Avec des géométries qui, là, n'étaient pas calculées, donc c'est à peu près ça, mais ce n'était pas exactement ça. Et le musée, il est aussi dedans, dehors. Quand je dis dehors, c'est dans cet espace qui n'est ni dedans ni dehors, ce que les Japonais appellent le mât. Là, il y a un énorme mât, c'est-à-dire qu'il y a un énorme espace qui est un espace public, mais qui est 4 degrés environ en dessous de la température extérieure, un peu comme sous un arbre, et qui permet quand même quand il fait très chaud, d'être mieux là. Mais c'est un musée aussi où on vivra le soir, surtout. Hein. Donc ces formes, celles les formes de la ville, en fait, elles sont géométriques. Les formes sont données par un programme réel, c'est-à-dire qu'on sait quel type d'œuvres vont arriver dans les galeries. Donc ça donne des volumes qui sont différenciés naturellement, je dirais. Et après, on ne va pas faire une construction tout à fait traditionnelle, c'est pas à l'échelle d'ailleurs, et on va faire une sorte d'architecture cyclopéenne. C'est d'énormes pierres, quoi, sauf que ce ne sont pas de la pierre, c'est du béton de fibre. Mais ça se lit comme... ça se lit, en fait, là, c'est pas encore représenté ici, mais vous le verrez plus tard. C'est des grandes... C'est comme d'énormes pierres. Et la mer rentre, évidemment, à certains moments, puisque le dôme qui passe, à un moment, est sur 100 mètres, comme ça, entièrement ouvert. Et l'idée formelle aussi, c'est que cette coupole n'est pas... Cette ombrelle n'est pas tenue par la ville. On ne voit pas les points d'appui. Il n'y a que 4 points d'appui. Et comme ils flirtent avec les bâtiments qui sont en dessous, on ne sait pas où elle est portée. Là, vous voyez apparaître ces grands, ce grand appareil, qui est finalement, il correspondrait à des pierres souvent de 5 mètres ou 6 mètres de long par 4 mètres de haut, ou des choses comme ça. Quoi. C'est un assemblage qui tient d'une forme de stéréotomie, mais à très très grande échelle. C'est la construction. Et là, donc, on se retrouve sous la coupole, en train de poser toutes les étoiles. C'est des motifs étoilés, les uns sur les autres. Et vous l'avez vu sur le plan de la ville, c'est une archéologie marine aussi, hein, c'est-à-dire que les... Il y a des murs dans l'eau, il y a des murs de protection par rapport à la marée, il y a des piliers. C'est une architecture qui est à la fois dans l'eau et sous l'eau. Là, vous voyez ce que vous avez vu en dessin tout à l'heure, c'est-à-dire la précision de ces grands éléments, ces grands nœuds. Que l'on voit à travers, vu d'en bas, mais qui sont évidemment d'une expressivité et d'une précision qu'on ne voit pas, généralement. Et là, donc, la pluie de lumière à l'endroit où il y a l'impact du soleil qui crée ces raies de lumière, qu'on voit souvent dans les cathédrales, qu'on voyait dans les halles de Baltar en particulier, où on voit encore mieux, dans les halles de Baltar, c'était fabuleux, parce qu'il y avait une certaine poussière dans l'air, et ça matérialisait évidemment tous les faisceaux. Et là, il y a un peu de sable dans l'air aussi, et ça permet souvent de les matérialiser très bien. Donc en fait, vous voyez, la forme, elle vient après. La forme, elle vient pendant. La forme, elle est toujours en train de changer. Mais on a quand même l'idée que on pourrait encore aller plus loin. On a toujours l'idée qu'on ne voudrait pas s'arrêter, qu'on voudrait toujours continuer à approfondir le système. Ça, ça va un peu à l'opposé de... Quand on dit que les recherches formelles en architecture conduisent à une architecture qu'on appelle formaliste en architecture, ce n'est pas le sens du mot français quotidien, mais c'est tout à fait autre chose. C'est le désir d'une forme. Je ferai bien ça comme ça. Et immédiatement, on voit la forme. Bon, ça conduit à des excès en particulier, ou à des caractéristiques fortes, en particulier ce que Venturi appelait les canards, c'est-à-dire les bâtiments en forme d'objets. Ça avait commencé par un hamburger, ça avait commencé... Bon, on peut faire des bâtiments avec des formes... C'est la forme qui est initialement donnée. Non, là, la forme est un résultat. Et la forme s'arrête, et à un moment, pour un paramètre qu'on ne connaît pas, on va continuer à la changer. Mais on doit la changer pour l'approfondir, pour garder la question. La forme est toujours une question, ce n'est pas une réponse. Il faut qu'elle demeure une question. Si elle demeure une question, il y a une chance que ça puisse intéresser quelqu'un. Dès qu'on a la réponse et qu'on a tous les éléments. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut jamais faire des conférences comme ça. Il ne faut jamais expliquer ces recettes de cuisine. Il faut toujours cultiver, à la fois en termes de complexité, d'ambiguïté, cultiver un certain secret. Là, c'est juste au moment où ils ont posé le drapeau, quand le dôme était fini, et donc vous voyez à peu près la complexité de la chose construite et de la ville en dessous. Voilà, donc c'est une forme de presqu'île, une forme de musée, une puits de lumière. Il y en a des surprises. Vous voyez, là, on se rapproche du solstice d'été. Et ça, on n'avait pas pensé, on n'avait pas vu à ce point. C'est-à-dire qu'à certaines heures, toutes les taches deviennent, pour le solstice, vraiment des verticales, comme ça. Toute une série de verticales qui marquent les bâtiments. Ouais, vous les voyez là, d'ailleurs. Voilà, ça, c'était ce jour-là. Un jour solstice. Merci.